Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Histoire de Dubaï, le premier podcast français sur Dubaï. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les malls, voile obligatoire et j'en passe. J'ai donc envie aujourd'hui de montrer une autre image de Dubaï, celle des Français qui entreprennent. Avec l'exposition universelle 2020 ou encore le musée du futur dont l'accent est mis sur l'innovation autour des défis du changement climatique, j'ai le pressentiment que Dubaï a encore de belles années devant elle. Et grâce à mes invités, j'ai envie de vous donner les clés pour qu'à votre tour, vous puissiez tenter votre chance. Je m'appelle Laura Pouliken et je suis également fondatrice du podcast L'Aléa sur la prise de risque. Si vous souhaitez en savoir plus sur Dubaï, je vous invite à vous abonner au podcast, à me suivre sur Instagram à Low From Paris ou Histoire de Dubaï, ou encore à lire les articles du média Dubaï Madame. Enfin, si le podcast vous aide rien qu'un peu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le noter et le commenter. Aujourd'hui, je suis avec Alim de Dubaï Fragrance Official. Bonjour Alim.
Bonjour Laura.
Je suis ravie de te rencontrer aujourd'hui pour que l'on parle ensemble de Dubaï Fragrance Official, ce concept proposant des shootings photos en robe volante, seul ou à plusieurs à Dubaï. Aujourd'hui, donc, on est ensemble pour un podcast en partenariat avec Dubaï Madame. J'ai une petite question simple avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Tout d'abord, merci à toi, Laura, de m'accueillir. Et merci à Dubaï Madame également de partager cette collaboration. Donc moi, je suis Alim. Je suis né en France, à Thonon-les-Bains, en Haute-Savoie. J'ai 39 ans, donc marié, une petite fille de 7 mois qui est née pendant la période de Corona. et donc, je suis à Dubaï maintenant depuis 10 ans. Donc à la base, mon parcours professionnel, donc j'ai fait une école de commerce, l'EM Lyon. À la suite, j'ai intégré Danone en tant que chef de marché pendant 5 années. Et ensuite, je suis venu donc à Dubaï. Dubaï parce que tout simplement, c'était une ville en plein boom à l'époque. Et encore aujourd'hui, encore plus qu'avant. Et donc, j'ai grandi dans l'agroalimentaire exactement. Et puis, depuis très peu, donc dans la photo.
D'accord, c'est hyper intéressant. Et à la base, donc, tu es arrivé à Dubaï il y a très longtemps, il y a 10 ans. Qu'est-ce que tu as fait ? Quelles sont les actions que tu as mises en place ? Tu es venu pour un boulot ou pour...
À l'époque, au fait, quand je travaillais donc, chez Danone, donc, j'avais vu Dubaï donc, à travers les reportages télévisés, à travers la presse. Et j'avais vraiment vu que Dubaï avait vraiment, on va dire, en termes d'opportunités professionnelles, beaucoup de chance pour les jeunes. Donc j'avais 29 ans à l'époque. Donc,
bonjour Alim.
Bonjour Laura.
Je suis ravie de te rencontrer Danone. Aujourd'hui pour que
et,
l'on parle ensemble.
Et j'avais vraiment
Dubaï
envie d'évoluer et d'évoluer très très vite.
Ce concept
et c'est pour ça que j'ai pris Dubaï, tout simplement. J'ai tenté l'expérience, je suis venu ici, j'ai fait du porte-à-porte.
Aujourd'hui, donc,
donc j'ai simplement listé d'entreprises françaises.
Pour un podcast en partenariat avec Dubaï Madame.
Une des entreprises m'a fait confiance.
Avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr.
Et quelques mois après, ils m'ont appelé.
Merci à toi, Laura,
de m'accueillir. Un poste libéré.
Merci à Dubaï.
Comme je dis, il faut provoquer la chance.
Partager cette collaboration.
Il faut savoir la provoquer.
Donc moi, je suis à Nîmes,
tout simplement. Je suis revenu en France
en 2011,
janvier 2011,
Savoie.
Et c'est là que tout a commencé à Dubaï.
Ouais, et en plus, une petite fille de 7 mois
qui est née pendant la période de Corona.
Et donc, je suis à Dubaï. Le boom de Dubaï qui attirait beaucoup de gens, mais moins quand même, moins qu'aujourd'hui.
C'est vrai qu'à l'époque, au fait, Dubaï, à l'époque, était en pleine évolution, donc ils avaient besoin de matière grise, ils avaient besoin de personnes qui viennent d'Europe, dans les pays qui sont déjà très développés, des personnes qui s'étaient diplômées, donc vraiment pour mettre en place tous ces process qui aujourd'hui existent déjà à Dubaï. Donc c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup plus d'opportunités. Après, je dirais qu'aujourd'hui, l'opportunité existe. Comme tout, il faut savoir tenter, il faut pousser, il faut pas lâcher. Et je dirais que malgré qu'il y ait moins d'opportunités, toute personne a sa chance ici à Dubaï.
Oui.
Aussi parce que tout le monde se dit la même chose sûrement. Tout le monde se dit peut-être qu'il y a moins d'opportunités. Donc pour finir, personne ne vient. Donc les personnes qui vont oser aujourd'hui venir, ils auront leur opportunité.
Ils vont trouver, ouais.
Exactement.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Et Dubaï Fragrance Official, du coup. Comment ça s'est passé ? Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse du projet ? Comment est venue l'idée ?
Donc en fait, la photo, pour moi, c'était une passion que je pratiquais le week-end. Et, euh, Et donc j'avais commencé avec la photo, donc portrait et lifestyle. Donc comme toute personne au début, c'était des prestations gratuites. Donc il fallait que je me crée la visibilité. Donc j'avais choisi comme plateforme de visibilité Instagram, parce qu'il faut savoir qu'à Dubaï, les réseaux sociaux, ça fonctionne très, 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 très bien.
Et Dubaï est régulièrement classé dans les endroits les plus Instagrammables de la planète.
Je peux le dire. J'ai shooté dans pas mal d'endroits très Instagrammables et les photos ont très, très bien marché sur Instagram. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Donc j'ai commencé comme ça, au fait. Donc, simplement des photos, donc service gratuit, avec des touristes qui m'avaient trouvé donc, à travers les hashtags sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et j'ai construit tout doucement donc, mon portfolio de photos, donc photo portrait, photo lifestyle. Et c'est à vrai dire que quelques clientes étaient souvent venues avec des robes. Et elles m'ont toutes demandé, Alim, est-ce que tu loues des robes? Et je leur avais dit, c'est pas mon cœur de métier de louer des robes. Je suis photographe et simplement photographe. Et un jour, lors d'un shooting dans le désert, j'ai une des clientes qui est venue avec une robe qui était un peu plus longue que d'habitude. Et au fait, j'avais eu cette idée de prendre des photos avec la robe qui volait, au fait. Et c'est là d'où venait une idée, tout simplement. Je me suis dit, pourquoi pas, au fait, faire des robes volantes. Et c'est là, au fait, où j'ai eu l'idée, tout simplement. Donc, j'ai lancé le concept Dubai Flying Dress Official, donc, qui est un concept de photoshoot en robe volante dans des endroits iconiques de Dubaï, notamment le désert, qui est l'endroit le plus traditionnel et unique.
Et c'était il y a combien de temps, du coup?
Ça s'est passé. Donc, le compte de Dubai Photo Escape, qui était le compte photographie donc, pour portrait lifestyle, je l'ai créé en janvier 2019. L'idée est très très rapidement arrivée, donc c'était en octobre 2019 que j'ai lancé le Dubai Flying Dress Official compte Instagram. À travers mon esprit entrepreneur, pour moi la photo c'était juste un démarrage, c'était pas un aboutissement, donc je vois les choses beaucoup plus loin que la photo. Donc même en faisant la photo tous les jours, je vois les choses beaucoup plus grandes. Donc j'avais cet esprit entrepreneur à travers la photo.
Et alors c'est une question que je me pose, mais il y a un concept qui est similaire en Grèce, qui se nomme Santorini Dress. Est-ce que vous avez un lien avec eux ou pas du tout?
Non, on n'a aucun lien avec eux. Aujourd'hui, si on regarde par exemple sur Pinterest, on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de photographes dans le monde qui ont fait des photos avec des robes volantes. Après nous, aujourd'hui, on a lancé, on va dire, une expérience robe volante. Et aussi, on a lancé un concept. Aujourd'hui, le concept Flying Dress qu'on voit aujourd'hui, c'est un marché, c'est un océan bleu aujourd'hui, Flying Dress. Il y a très peu de concurrents pour l'instant sur ce marché-là. Et on a lancé la tendance Flying Dress. Et depuis, on se rend compte qu'aujourd'hui, nos concurrents, nos partenaires, parce que pour nous, tout le monde est partenaire, il n'y a pas de concurrence. La concurrence est bonne pour le marché. Ça crée beaucoup plus de visibilité. Donc, tous nos partenaires, on va dire, confrères, se sont lancés dans le Flying Dress. Donc aujourd'hui, le Flying Dress, on le voit un peu partout. Ça crée de la visibilité, ça crée du marché et c'est très, très bon pour tout le monde.
Super intéressant, c'est vrai. Dans une création d'entreprise, je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui souhaitent créer une entreprise. Il est toujours intéressant de connaître les grandes étapes, finalement, entre le moment où tu as eu l'idée, Alim, et le passage à l'action, parfois qui peut être un peu fastidieux, surtout à Dubaï. On n'a pas forcément de connaissance du marché. Est-ce que tu peux m'expliquer quelles ont été concrètement les grandes étapes pour la création de Dubai Flying Dress Official, que ce soit en termes de process, que ce soit en termes de recrutement?
Donc aujourd'hui, peut-être pour vous donner une idée déjà par rapport à la France, que j'aime toujours comparer par rapport à la France. J'ai été entrepreneur en France, donc j'ai créé un restaurant en France il y a 5 années maintenant. À l'époque, en France, c'était très difficile d'un point de vue administratif. Ce que j'avais ressenti, c'est qu'en France, si vous voulez créer donc une entreprise, il y a beaucoup de freins, au fait, dès le début, de freins en termes d'administratif. Donc, beaucoup de documents à remplir, il y a beaucoup de structures. Et tout ça, au fait, ça freine les entrepreneurs. Ce qu'on veut, nous, tout de suite, c'est on a un produit, on a un service. On veut donc le proposer à nos clients et que nos clients soient satisfaits. En France, cette partie-là, elle arrive très, très, très loin. Et je pense que parmi 10 personnes qui veulent essayer, il y en a 5 qui mettent l'action en place et peut-être il y en a 1 ou 2 qui vont avoir, on va dire, un chiffre d'affaires qui fonctionne. Donc, le reste sont découragés. Donc, c'est beaucoup, 80% de découragement. Aujourd'hui, à Dubaï, c'est tout l'inverse aujourd'hui à Dubaï. La création d'entreprise se fait très, très rapidement. Il y a des sociétés, au fait, qui vous accompagnent ici. Elles ne sont pas chères du tout, honnêtement. Et il faut simplement d'envoyer vos papiers d'identité, le nom d'entreprise, nombre d'employés. Et au fait, la société se charge absolument de tout pour créer la société. Donc, ça prend une quinzaine de jours et votre société est créée. Donc, vous avez un numéro, donc licence, qu'on appelle CABIS en France, un nom de société. Et ensuite, d'être reconnu donc, pour pouvoir donc, embaucher des employés, etc.
Et vous, c'est quel type de licence que vous avez créé pour
Donc moi, j'ai une licence photographie et services.
D'accord.
Consulting. Okay. Donc c'est la licence que j'ai créée aujourd'hui.
D'accord. Donc est-ce que tu peux me décrire maintenant le concept vraiment dans les détails de Dubai Flying Dress Official ?
Donc Dubai Flying Dress Official, donc c'est une expérience unique aujourd'hui qu'on propose à toute cliente. Je dis expérience dans le sens où c'est plus qu'un photoshoot. Aujourd'hui, ce qu'on veut à travers Dubai Flying Dress Official, c'est que la cliente qui nous rejoigne sorte avec une expérience qu'elle n'a pas connue auparavant. Par exemple, je vous donne un exemple. Souvent, j'ai des clients qui arrivent et qui sont, on va dire, très réservés, très timides sur le fait de pouvoir poser. Elle me dit tous, j'ai jamais fait de pose, c'est très difficile, je suis pas un modèle. Et au fait, moi, à travers mon background que j'ai on va dire, de commercial, donc j'arrive très facilement en fait à écouter la personne, à me mettre dans ses chaussures, la mettre à l'aise, répondre à ses besoins. Et au fait, au fur et à mesure du shooting, j'arrive à la rassurer en lui montrant les photos, en lui parlant avec elle, en choisissant les poses qui sont les plus adéquates à sa morphologie. Et à la fin, en fait, on se retrouve avec des clientes qui sont arrivées au début pour un photoshoot et qui ressortent plus belles, qui ressortent plus confiantes, qui ont passé un super moment parfois parce qu'elles n'ont jamais pris le temps pour elles-mêmes, en fait, de passer une heure à faire un photoshoot, se maquiller avant, avoir une robe qui la rend encore plus jolie. Donc c'est vraiment une expérience qu'on propose aujourd'hui. C'est beaucoup plus qu'un photoshoot. Je dirais que ça nous permet, en fait, d'apporter, on va dire... de la joie, de la beauté à la femme aujourd'hui.
Et quels sont les services que vous proposez, les différentes formules, puisque je sais qu'il y a différentes formules, voilà, on peut intégrer aussi également les enfants, et à quel prix finalement, pour ceux qui seraient intéressés, qui nous écoutent.
Donc toutes les informations, donc, si vous voulez, elles sont sur notre site internet. Donc brièvement, pour montrer les étapes aujourd'hui d'un photoshoot, donc la première étape, donc, c'est nous envoyer un message, donc à travers Instagram ou sur le numéro WhatsApp qui sera indiqué donc, sur le site internet. Donc on propose tout d'abord donc, le choix des robes. Aujourd'hui, on propose une douzaine de robes. On a deux modèles différents. Donc, il y a un modèle original qui est propre à Dubai Flying Dress Official qu'on a créé depuis le début. Et un modèle aujourd'hui qui permet aux femmes qui sont un peu plus discrètes, qui veulent un peu plus des robes couvertes, qu'on a appelé formal.
D'accord.
Donc, deux modèles de robes qui permettent de répondre vraiment aux besoins de toutes les femmes.
Ok, super.
Ensuite, par rapport à ça, donc les femmes vont choisir donc, avec ou sans make-up, donc le maquillage, avec ou sans coiffure. Ensuite, on pourra choisir des accessoires. Donc, on a des accessoires, trois types d'accessoires aujourd'hui qui sont des masques arabiques. Donc, pour vraiment habiller le visage et venir compléter donc, la robe. Une fois le booking réalisé, donc avec le choix de la date, de l'heure, donc la maquilleuse ou la coiffeuse se déplace directement chez la cliente où elle réalisera donc le make-up. Ensuite, notre chauffeur vient la récupérer directement à son hôtel. Il la transfère sur le lieu du shooting, désert ou ville. Et à ce moment-là, donc moi, je suis sur place ici donc pour donc accueillir la cliente, commencer à préparer la cliente avec la robe, faire le shooting de 1 heure. Et ensuite, donc, notre chauffeur la récupère pour la ramener donc, à l'hôtel.
D'accord. Et après, votre cliente choisit les photos.
Exactement. Donc ensuite, donc, le soir même, donc, j'envoie toutes les photos originales à nos clientes. Elles ont 5 photos au choix. Donc ensuite, elle m'envoie le numéro des photos et à partir de ce moment-là, donc moi, je fais les retouches et au bout d'une semaine, on va dire, je renvoie toutes les photos retouchées qu'elles ont choisies.
Et comment choisissez-vous vos lieux ? Parce que vous shootez dans des endroits extraordinaires comme le désert, devant la Burj Al Arab.
Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, au début, on est parti sur 6 lieux différents et on s'est très vite rendu compte qu'en fait, il y avait 2 lieux qui étaient vraiment très prisés. On va dire 2 lieux iconiques de Dubaï. Le premier, bien sûr, c'est le Burj Al Arab, hôtel 7 étoiles. Avec la mer, ça c'est le premier lieu qu'on a choisi, et ensuite le désert, je vous le décris pas, c'est quelque chose d'unique, vraiment quelque chose de traditionnel aujourd'hui, authentique. Donc pour moi aujourd'hui le désert c'est vraiment la partie on va dire la plus prisée sur le shooting, et un peu comme Dubai Flying Dress Official, aujourd'hui on est authentique, on est unique, et le désert rassemble ces mots-clés, cette identité de Dubai Flying Dress Official.
Et quels sont vos types de clients, justement ? Tout à l'heure, tu disais que tu t'adaptais à des demandes de femmes qui souhaitent être un petit peu plus couvertes. Est-ce que vous avez également des clientes émiraties ici, ou c'est principalement des touristes ou des locaux ? Enfin, comment...
Donc, nos clientes aujourd'hui sont très, très larges. Donc, Dubai Flying Dress Official, comme je vous l'ai dit, le but, c'est vraiment de toucher au maximum toutes les femmes. Donc, elles peuvent être de toutes... pays en termes géographiques. En termes de morphologie, on touche vraiment toutes les femmes. C'est vraiment accessible pour tout le monde. Que ce soit une femme très fine ou une femme un peu plus grande. Donc toutes les morphologies sont absolument couvertes à travers Dubai Flying Dress Official. Les clientes, oui, elles peuvent être françaises, elles peuvent être espagnoles, d'Amérique latine, émiratis. Donc on veut vraiment proposer ce service et qu'il soit accessible à tout le monde. Donc c'est ce qu'on veut aujourd'hui sur Dubai Flying Dress Official. C'est avoir un service que tout le monde peut vraiment en profiter.
D'accord. Et aussi, j'aimerais bien qu'on parle d'occasion, puisque c'est vrai, voilà, j'ai même vu qu'il y avait des demandes en mariage dans vos services. C'est quoi les occasions qui reviennent le plus, voilà, enterrement de vie de jeune fille, c'est un peu pour aiguiller nos auditeurs qui seraient intéressés.
Bah, je dirais que l'un des mots-clés, c'est émotion. Émotion, donc on va dire, tout moment qui crée de l'émotion, Dubai Flying Dress Official est le plus adéquat. Comme vous l'avez dit, par exemple, on a eu des demandes de mariage. J'ai eu des demandes de mariage pendant le shooting.
Wow.
Donc, au fait, c'est vraiment quelque chose qui crée l'émotion parce que donc, le mari me demande juste avant, OK, Alim, je vais demander ma femme au mariage. Qu'est-ce que tu me conseilles? À quel moment on peut donner la bague? À quel moment tu prends la photo? Et au fait, on crée un scénario avec le mari. Et donc, la femme, bien sûr, elle est réjouie. Donc, en plus des photos qui la subliment, elle demande du mariage. Et là, tout de suite, donc, ça crée l'émotion. Et c'est vraiment quelque chose qu'on veut partager aujourd'hui.
Ouais.
On a eu également des mères-filles, donc des mamans qui viennent avec leurs petites filles pour partager ce moment ensemble. Donc avoir un moment, avoir une photo qui va rester sur le temps, qu'on pourra partager dans 20 ans, 50 ans.
Mmh.
On a également des shootings d'enterrement de vie de jeunes filles.
Mmh.
Donc des copines qui sont venues à 5, 6 et qui ont voulu partager ce moment tout ensemble. Donc vraiment, en fait, c'est l'émotion.
Ouais.
Voilà. Donc tout moment qui a besoin d'émotion, Dubai Flying Dress Official va vous permettre de transmettre ce moment-là et de ressortir donc encore plus contente. Ouais.
Super. Aujourd'hui, vous travaillez avec beaucoup d'influenceuses de télé-réalité, ou non d'ailleurs, des influenceuses qui n'ont pas fait de télé-réalité. Pour ne citer qu'elles, Sarah Lopez, Astrid Nesla, Lena Mafouf aussi récemment. Quel est votre secret pour les contacter et les embarquer dans le projet?
Bah, notre secret, on va dire, il se retranscrit par les photos qu'on voit sur Instagram, par les photos sur notre site internet. Aujourd'hui, il faut savoir que Dubai Flying Dress Official, on est expert dans ce domaine. On ne fait que des Flying Dress Official. On ne fait pas de shooting, on va dire, en face de Burj Khalifa avec des touristes. On ne fait pas de location de jet ski ou de location de quad. On ne fait que du Flying Dress. Donc, on est expert. Et que dit toute personne qui est expert dans son domaine, c'est une personne qui excelle. Donc, qui excelle d'un point de vue technique. Donc, aujourd'hui, on propose des photos qui sont vraiment attrayantes pour la jante féminine, mais aussi, on va dire, en termes de relationnel. Donc, toute personne qui va venir faire un shooting avec nous, à travers tous les services, tous les partenaires qui travaillent avec nous, elle va souvent nous dire « Ok, j'ai passé un super moment, c'était professionnel. Du début à la fin, tout s'est très bien passé et les photos sont juste incroyables. » Donc, c'est vraiment le retour qu'on a par rapport à tout ça. Et bien sûr, le bouche à oreille. Par exemple, on a eu la première influenceuse qui était à l'époque Myriam K.
Mmh.
Donc, c'était une toute première influenceuse qui nous a fait confiance à l'époque. Parce que comme tout début d'entreprise, au début, c'est toujours très difficile.
Bien sûr.
On a quelques photos, on n'est pas encore connu. Donc, il faut arriver à convaincre une personne influente, une personnalité publique, pour pouvoir nous aider à propulser. Et en fait, Myriam K nous a propulsé à l'époque. Elle a fait le service, elle était vraiment très réjouie, surprise de la qualité du service qu'on a fourni, surprise des photos qu'on a fournies. Et au fait, après, donc, ça fait du bouche-à-oreille.
Ouais.
Donc après, on a shooté Camille Froment, après on a shooté Sarah Lopez, ensuite, ainsi de suite. Ensuite, Lena Mafou, ouais. Ensuite Paola. Récemment, on a shooté une Miss. Donc on shoot également des personnes de personnalité publique, Miss Languedoc-Roussillon, Ilana. Récemment, j'ai shooté Lo Koh-Lanta, qui a fait Koh-Lanta également. Donc voilà, je dirais que tout service qui est de qualité, tout en partageant c'est de l'émotion, en partageant un bon moment. On n'est pas là pour juste faire un photoshoot, on est là pour discuter, échanger, rigoler et bien sûr avoir un service de qualité. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on est de plus en plus prisé.
D'ailleurs, justement, qui s'occupe dans l'équipe de contacter ces jeunes filles? Vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui pour qu'on s'imagine un petit peu?
Dans l'équipe aujourd'hui, donc, on fonctionne comme une start-up aujourd'hui. Donc une start-up, qui dit start-up, dit un minimum de coûts. Donc, on a beaucoup de prestataires avec qui on travaille. Donc, on a X prestataires avec qui on travaille. Et chaque personne a sa tâche. Donc, on a une partie donc, gérée par le département communication et marketing, une partie est gérée par la partie sales, une autre partie donc, technique et plus la photographie, les retouches, la partie création du web. Et donc, chaque personne a cette tâche. de pouvoir donc communiquer par exemple avec les influenceurs, de les approcher et bien sûr après de convertir tout ça en shooting.
Depuis l'année dernière, on observe un véritable essor médiatique autour de Dubaï avec l'arrivée de nombreux influenceurs. Quel regard portes-tu toi est-ce que c'est plutôt une aubaine pour Dubai Fangirls Official ou cela ne change rien finalement?
Bah, honnêtement, à l'époque, j'ai 40 ans quasiment aujourd'hui. À l'époque, 40 ans, quand on parlait de Dubaï, personne ne connaissait Dubaï parce qu'on n'avait pas trop accès encore à Internet à l'époque, en fonction de ses moyens. Aujourd'hui, les influenceurs, comme leur nom l'indique, ils sont influents. Et les influenceurs, vraiment, pour moi, sont une pub. Une pub qui remplace la télé, une pub qui remplace YouTube, une pub qui remplace les pancartes 4x3 dans les rues, dans les arrêts de bus. Donc, et en plus, ce qui est bien, c'est que les influenceurs réalisent l'expérience. L'expérience est enregistrée sous forme de vidéo. Donc, on ne nous ment pas. C'est la réalité. C'est ce qui se passe réellement au moment donné. Et non, c'est une aubaine. C'est vraiment une aubaine pour nous d'avoir ces influenceurs qui permettent d'ouvrir Dubaï au monde entier. Je me rappelle encore, il y a 2-3 ans, j'ai des clientes qui venaient et qui me disaient « Ah, Dubaï, je pensais que les filles étaient complètement couvertes. Je pensais que…
» Mais encore aujourd'hui, il y a des clichés. C'est les clichés de Dubaï.
C'est ça, c'est ça. Et en fait, on se rend compte que dans la rue, en fait, tout le monde vit normalement. Donc, il faut savoir que Dubaï, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris ce qu'il y avait de mieux dans le monde. Ils ont contacté la personne qui l'a réalisé et ils l'ont fait en mieux. Je vous donne un exemple, les fontaines. Les fontaines de Dubaï, à la base, c'est Las Vegas. C'est l'hôtel à Las Vegas. Je crois qu'il y a peut-être une dizaine de jets. Aujourd'hui, on se rend compte, à Dubaï, les fontaines, il y a plus de 1000 jets. Donc, ils ont fait ça en 100 fois plus grand. Donc, c'est vraiment Dubaï. C'est de faire ce qu'il y a dans le monde en mieux. Donc, ce que vous voyez dans le monde, en Europe, en Amérique latine, aux USA, c'est présent à Dubaï. Et je dirais que c'est une ville très, très agréable. Très agréable.
Et beaucoup plus quand on va au-delà de tous ces clichés, justement. Enfin, c'est vraiment…
Exactement. Et c'est pour ça que les influenceurs, aujourd'hui, à travers leurs vidéos, leurs photos, ouvrent les yeux donc, au monde et montrent que voilà, Dubaï, au fait, c'est tout simplement comme un autre pays.
Exactement. Aujourd'hui, Alim, quelle est la chose dont tu es le plus fier dans cette aventure, ta plus grande victoire?
Bah, moi, je dirais que moi, j'étais vraiment formé en France, donc à cursus scolaire que la plupart des personnes ont. Donc passé par une école de commerce. Donc à l'école de commerce, c'est une très très bonne école dans le sens où on nous donne de la structure, on nous donne donc de la technique pour aborder un problème et bien sûr résoudre une solution avec une solution. Après, je dirais que moi la partie où je suis le plus fier, c'était l'entrepreneuriat. Donc j'ai réussi à quitter le monde entreprise. J'ai passé 15 ans en entreprise. Je suis arrivé jusqu'au poste de directeur commercial export. Donc j'avais 120 commerciaux à gérer, à manager, et j'ai réussi à faire ce pas au fait, de pouvoir quitter ce monde de l'entreprise et de mettre à mon compte, être entrepreneur. C'est très difficile, hein. Je ne dis pas que ça se fait comme ça du jour au lendemain. C'est beaucoup de remises en question, parce qu'on se dit au fait pourquoi j'ai fait une école de commerce, pourquoi j'ai dépensé autant d'argent pour les écoles et avoir grandi d'entreprise. Et au fait, le plus dur, je dirais, c'est faire ce pas au fait. Et ce pas au fait, on le fait à travers soi-même. En fait, on se remet en question soi-même et on se pose la question en fait, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux toujours continuer dans le monde de l'entreprise, grandir les échelons et peut-être plus tard regretter de se dire pourquoi pas m'être lancé tout seul? Parce que je pense que toute personne qui sort d'école de commerce pour moi aujourd'hui est entrepreneur. C'est juste qu'on est peut-être un peu trop bridé ou peut-être qu'on est trop dans le confort. On est content, on travaille pour l'entreprise, on a un salaire qui rentre à la fin du mois. Alors qu'en fait, toute personne est entrepreneur.
Et je trouve que c'est vraiment la génération, on va dire, 30-40 ans qui a été vraiment bon élève, formaté, école de commerce, études. Je trouve que la génération, aujourd'hui, les millennials, ils osent beaucoup plus créer, entreprendre très, très jeunes. C'est l'avantage de la génération finalement, d'après.
Et ça, je te rejoins sur ça, Laura, parce que parmi mes équipes, j'ai des jeunes là, qui ont intégré l'équipe. Et c'est vrai, je me rends compte qu'à leur âge, on n'avait pas cette perception déjà du business, en fait. Elles ont déjà cette perception de produit-service client. Alors que nous, à l'époque, c'était plus OK, donc il faut que je rentre intègre cette entreprise, il faut que je grandisse, il faut que j'évolue. Et elles sont plus entrepreneurs aujourd'hui. Oui. Et je pense que c'est à travers Internet. À travers la réussite de certains jeunes qui ont peut-être 18 ans, qui ont déjà réussi, qui sont déjà millionnaires, et que nous, à l'époque, on n'avait pas accès. À l'époque, nous, on n'avait pas d'exemple qui pouvait nous pousser à grandir. À l'époque, nous, c'était peut-être Steve Jobs, Apple, qui était inaccessible.
Vous voyez à la télé,
qui était exactement. Utopique.
Aujourd'hui, on a des réussites de personnes qui sont moins de 18 ans, qui sont à travers YouTube, qu'on les voit évoluer. Et ça donne beaucoup d'exemples et ça donne beaucoup d'idées à tous les jeunes.
Exactement. Et au contraire, donc on a parlé de ce dont tu étais le plus fier. Est-ce que tu as vécu des échecs dont tu pourrais nous faire part, forcément ?
Bah, les échecs, pour moi, les échecs, c'est, je considère ça comme un moyen de fait d'évoluer, au fait, un échec. Je vois pas ça comme un échec. Je vois simplement ça comme un moyen pour évoluer. Pour moi, l'échec, c'est juste, je pense, un point sur lequel on n'a pas passé assez de temps, qu'on n'a pas pu étudier ou qu'on n'a pas vu, tout simplement. Donc, je considère les échecs plus comme des opportunités pour moi.
Et est-ce que tu en as, des défis?
Je dirais le défi que j'ai relevé, c'est par exemple la visibilité. Aujourd'hui, sur Instagram, il y a des millions et des millions et des millions de comptes. Être visible, c'est très, 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 très difficile. Donc ça, c'est le plus grand défi pour Dubai Flying Dress Official. Et aujourd'hui, je suis vraiment content parce qu'on a réussi à trouver la solution, trouver, on va dire, les différents paramètres pour pouvoir venir à réaliser une visibilité qui est beaucoup mieux qu'à l'époque.
Quels sont, avant de passer sur les petites questions sur Dubaï qu'on pose toujours en fin d'interview, quels sont les projets pour Dubaï Flying Dress Official pour les années à venir ?
Bah, les projets, je dirais, ils sont grands. Hein. Donc, quand on est entrepreneuriat, on voit les choses en grand. C'est très dur de s'y mettre, mais une fois qu'on y est, au fait, avec toute l'expérience qu'on a acquise à travers des grandes entreprises, on a plein d'idées qui reviennent. Et moi, je dirais d'abord produit. Donc aujourd'hui, on veut faire évoluer le produit. Donc Dubaï Flying Dress, aujourd'hui, c'est des robes. Donc on a des idées pour faire évoluer le produit. Je vous en dis pas plus, ça va arriver. Je vous laisse nous suivre sur Instagram à travers les stories qu'on fait tous les jours. Likez les stories et des idées vont arriver très très vite.
On mettra nos produits. Pas de soucis.
Et après d'un point de vue géographique également, donc on a de belles idées également. Donc,
ouais. Justement, j'allais me demander si vous souhaitez vous étendre.
Oui, je pense que je pense qu'on va essayer de d'abord faire sur Dubaï ce qu'on fait de mieux, vraiment performer à 100% et de satisfaire absolument tous nos clients aujourd'hui sur Dubaï. Comme j'ai dit, c'est un marché, donc c'est un océan bleu aujourd'hui, donc il va amener à grandir très très vite et on va profiter de Dubaï, trop profiter du boom qui se passe en ce moment à Dubaï avec les influenceurs, la visibilité qu'on a à travers les journalistes, à travers les réseaux sociaux et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de travail déjà à faire ici.
Merci beaucoup, on va finir par des petites questions sur Dubaï. Si tu pouvais nous citer un souvenir marquant que tu as eu avec Dubaï,
oui, à Dubaï.
Flying Dress Official ou non?
Avec Dubaï, franchement, un souvenir marquant, c'est par exemple, j'en parlais tout à l'heure avec Chloé, c'est que c'est le service à Dubaï. Par exemple, ici, on va au McDo. Au McDo, quelqu'un vient vous voir et vous demande est-ce que ça s'est bien passé. En France, personne ne vient vous voir et vous demande est-ce que ça s'est bien passé, à part dans les grands restaurants. Donc, le service à Dubaï est incroyable, vraiment incroyable.
Quelles sont les principales différences culturelles que tu notes avec les pays francophones ?
À Dubaï, ça regroupe vraiment, on va dire, en termes de différences culturelles, c'est très très large. On peut avoir vraiment la population asiatique, on a la population, on va dire, européenne, donc toute l'Europe, et après, je dirais, la population africaine. Donc, c'est trois principales, on va dire, populations qui sont représentées ici. Je pense 80% c'est asiatique, à mon avis. 15% sûrement européen avec l'Amérique, je mettrais. Et 5% ce serait l'Afrique. Et toutes ces personnes arrivent à cohabiter ensemble.
Ouais.
C'est ça qui est extraordinaire. Au fait, Dubaï est fort dans le sens où toute personne se respecte. Ici, on n'a pas de violence. On n'a pas de mots injurieux. On peut s'habiller comme on veut. On peut faire ce qu'on veut tant qu'on suit la loi. Donc la tolérance ici, c'est une tolérance zéro. Mais c'est ce qu'il faut, je pense, pour faire habiter une population de cultures différentes.
Et je trouve qu'il y a des pays qui devraient s'inspirer de Dubaï. Et quand on voit comment ils ont géré le Covid, c'est
exactement, exactement.
Bon, là, ça revient, mais bon, parce qu'il y a les variants, mais c'était incroyable, quoi.
Exactement. Bah, là, encore une fois, tolérance zéro à Dubaï.
Ah bah oui.
On a été confinés du mois de mars jusqu'à fin juin. On pouvait sortir simplement avec une application qui était validée par la police. Il y avait des drones qui volaient dans Dubaï au cas où on était dehors sans aucune autorisation. Donc, tolérance zéro, tout le monde a respecté. Et heureusement, grâce à ça, aujourd'hui, Dubaï, c'est une destination au monde. Parmi quelques-unes, on peut venir en voyage, notamment pour les Français qui peuvent. Je comprends aujourd'hui la difficulté qu'ils ont en France depuis quelques mois, de pouvoir s'évader, sortir un peu, voir ce quotidien qui est très morose, très difficile. Donc, Dubaï est l'opportunité.
Le plus gros cliché que tu démens sur Dubaï ?
Les femmes qui sont couvertes.
Quels sont les endroits que tu conseillerais à Dubaï ? tes adresses préférées ?
Je donnerai deux endroits. Le premier, c'est le nouveau Jumeirah Beach Road. Au fait, c'est public, c'est gratuit. Et on peut, donc c'était aménagé pour pouvoir courir, marcher, se promener avec son enfant le long de la plage tout en profitant, on va dire, du paysage. Et un autre endroit, on va dire, payant, je dirais le Global Village. Je trouve que ça ressemble beaucoup à Dubaï. Au fait, c'est différentes cultures, différents stands qui représentent la gastronomie, la culture, le costume. Et ça représente vraiment Dubaï.
Moi, ça me fait penser au parc Epcot en Floride.
C'est vrai, tout à fait, en plus grand.
Ouais, en plus grand.
C'est vrai.
Dernière question, quel serait le conseil que tu donnerais à ceux qui souhaitent s'installer à Dubaï ?
Bah, je dirais comme conseil, c'est très simple. Hein. Il faut être rêveur, mais il faut être un rêveur, on va dire, concret. Donc, il faut avoir la motivation, il faut être prêt à affronter des difficultés. Et quand je dis concret, dans le mode rêveur, c'est qu'il faut avoir un plan. C'est pas se dire simplement, ok, moi je vais à Dubaï, dans un an, je vais gagner tant. Okay, donc, tu veux venir à Dubaï, c'est très bien, tu as une motivation, tu as un objectif. Sur court terme, moyen terme, long terme, il faut avoir un plan. Si tu viens à Dubaï, est-ce que tu veux ouvrir un business ? Est-ce que tu veux travailler pour l'entreprise ? Donc tout ça, ça se prépare. Et je dirais franchement que Dubaï est vraiment opportuniste pour ce type de profil. Si vous avez une idée, il faut suffire à travailler. Travailler, être motivé, prêt à affronter les difficultés. Et honnêtement, Dubaï est le lieu fait pour ça.
Merci beaucoup, Alim.
Merci à toi, Laura.
À bientôt.